Oui, c'est vrai.
Boulevard 102.1.
Bienvenue chez vous à Boulevard 102.1, bienvenue chez nous dans le retour. Bon lundi, bon lendemain de veille de défaite canadienne, bon début de semaine. Gravel dans le retour s'installe jusqu'à 18h. Les températures qui sont presque acceptables, moins 4 degrés présentement à Québec, alternance soleil-nuage, quoique présentement, c'est pas mal plus nuageux que d'autres choses. Le maximum est accessible à moins 2 degrés. Le refroidissement éolien cet après-midi est à moins 13. Ce soir et cette nuit, généralement nuageux et venteux. Des rafales encore à 50 km/h. Un minimum de moins 13. Demain, alternance soleil-nuage, maximum de moins 6. Encore une fois, des rafales de vent qui font en sorte qu'on va ressentir moins 19 en matinée, moins 13 en après-midi. On prévoit de la neige intermittente pour mercredi avec un maximum de moins 7. Et après ça, ben, on retourne aux environs de moins 2, 0 et même plus 3 degrés pour terminer le mois de février et débuter la semaine de relâche. Pour nous rejoindre en studio, par texto, le 418-971-1021, par téléphone, le 418-780-1021, vous nous écrivez directement sur le Messenger de Boulevard 102.1. On est sur le Twitch, les caméras qui vous donnent accès au studio en direct. D'ailleurs, on va procéder dans les prochaines minutes à l'enregistrement d'un podcast hors série qui risque d'être très intéressant avec un collaborateur régulier de Boulevard 102.1, M. Roger Ferland, qui va venir nous parler d'un des conflits les plus sanglants de l'Amérique du Nord. La guerre des motards entre les Hells Angels et les Rock Machines au Québec. Si vous avez des questions, gênez-vous surtout pas. 418-971-1021. On est partout sur vos réseaux sociaux et ceux des autres aussi. On a une chaîne YouTube. Vous trouvez tout ça avec la recherche BLVD 102.1. BLVD FM pour le site Internet et l'application Boulevard. Pour le reste, mon nom est Denis Gravel. Audrey, bonjour.
Hello.
Gab Marino, bonjour.
Salut la gang.
C'est la fin des Olympiques, donc Véro est en deuil. C'est une journée de deuil national pour Véronique, qui sera peut-être de retour demain.
Oui, elle avait besoin d'une journée de congé. C'est beaucoup d'émotions, là. C'est,
Oui. On l'aurait toute pris, je pense, d'ailleurs, cette journée de congé-là, là, après le match d'hier matin.
Je sais pas. J'ai tellement d'affaires à dire.
Ouais, ben, hey,
on dirait que d'un côté, t'as ça aussi, le hâte de partager tes états d'âme.
C'est un match qu'on va se souvenir. Ça c'est sûr et certain. Tu sais, quand on va être des vieux radoteux sur des chaises berçantes, puis on va se reparler des affaires qui nous ont marqué le plus. La bagarre au début des Quatre Nations, le Golden Goal de Sidney Crosby. Ouais. Les plus vieux vont te parler de Rendez-vous 87. Plus vieux que ça, la série du siècle, pis tout. Là.
Je me vois déjà là, faire ça avec ce que je vis avec le 87 et les autres d'avant. Là, je me vois déjà le faire.
Ce match-là, on va se rappeler d'une performance incroyable de Connor Hellebuyck, puis ça ouvre un paquet de questions, un paquet de débats, puis je sais qu'on va se faire plaisir tantôt parce qu'on va se faire un top de sport.
C'est rare, mais là, j'aurais beaucoup de choses à dire.
Toi aussi,
oui, hein?
C'est ce qui se passe. T'as fait de l'écoute active, toi, hier.
Hein? Là, là. J'étais... Tu sais, souvent, Véro va utiliser le terme « fille d'événements sportifs ». Puis je me retrouve là-dedans parce que tu m'entendras pas beaucoup parler de hockey dans une saison.
Jeudi, Islanders, tu vas pas regarder ça, tu penses?
Désolée. Je regarderai pas ça, certainement. Mais quand je sens qu'il y a comme un mouvement, une excitation, je veux comme faire partie de ça. Puis hier, nous autres, on s'est vraiment installés, la famille ensemble, mon amoureux était là, on s'est fait un gros brunch avec des cafés pimpés, des mimosas, c'était cochon.
Ça, c'était le même pour beaucoup de Canadiens.
C'était le fun. J'ai demandé sur mon Facebook aux gens de partager le photo de breuvage puis de setup. Puis tout le monde était à la même place puis faisait la même chose hier matin.
Mais c'est ça qui rend ça fun. Puis là, on dirait que je participe jamais dans cette affaire-là de top de sport. Fait que là, moi, hier, j'étais bien énervée. Je me suis dit, c'est là que ça se passe. Tout ce que je voyais, tout ce que j'observais, tout ce que j'avais à dire, je le lançais dans la conversation.
T'étais-tu chez vous, toi, Gab?
C'est un peu comme Audrey, en fait, chez mes parents.
OK.
Je les ai forcés à ce qu'on aille l'écouter chez eux. D'autant plus que, tu sais, ils ont vendu leur maison. Puis, tu sais, c'était un autre moment, peut-être avant que la maison, ce soit plus à mes parents, mais qu'on est allé avec mon frère puis ma famille. Puis c'est rare que, ça c'était mon constat, c'est que ça arrive pas que je peux regarder du hockey avec mes enfants parce que tout le temps à 7h30, 8h.
Trop tard.
Puis je l'écoute après. Puis l'an passé, les Quatre Nations, c'était ça. J'ai couché les enfants. Après ça, je suis allé au Normandin avec mes chums de gars. Puis on est allé là. Puis eux autres, ils ont moins. Tu sais, mes enfants, de toute façon, sont jeunes, mais anyway, ils étaient pas là.
Mais ton petit était déjà sur le hockey.
Ben,
t'es
un peu,
tu
sais. Puis ma fille a suivi ça. Puis tout ça. Fait que c'est drôle parce que quand finalement les États-Unis ont compté, là, il y a comme eu un petit down, mais elle dit ah non, on prenait pas pour la bonne équipe. J'ai dit non, on prenait pour la bonne équipe, mais là, il a fallu expliquer. Fait, mais tu sais, bref, un moment familial de rassemblement comme celui-là, c'est les matchs à 8 heures, ça n'a pas de bon sens, mais les autres bons souvenirs de ces heures-là, c'est dans le championnat du monde junior, souvent pendant le temps des fêtes qu'on le vit. Fait que là, que de le vivre aux Olympiques, de même, c'est capoté. En effet, peu importe le résultat, moi, je suis content de ce qu'on a vécu.
C'est un bon match,
vraiment. Audrey, il y a des problèmes sur les routes?
Oui, mais en fait, il y en a un précisément. Quand je zoome sur le pont La Porte en ce moment, il semble y avoir un incident direction nord, carrément sur le pont, presque à la fin, j'ai envie de dire, là, du pont direction nord, là, fait que près du boulevard Laurier. Puis en soi, ça crée vraiment un ralentissement sur le pont. Si vous voyez ce que c'est, vous avez des détails. 88-971-102 texto.
C'est très, 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 très égoïste comme perspective, mais j'étais pas déçu tant que ça que le Canada perde le match de la médaille d'or.
Moi non plus, si tu veux, pour la même raison, toi, puis
Gaudreau?
Moi.
Non, ben, je vais. C'est que moi, ça a été un peu un coït interrompu parce que j'ai écouté la première période du match avec mes gars. Puis moi, ces moments-là, j'aime ça les vivre avec mes gars.
Exact.
Mais hier, ils s'en allaient chez leur mère à 9h. Fait qu'entre la première puis la deuxième période, je suis allé porter les garçons, on s'est dit bye-bye, puis là, je suis retourné chez nous. Puis c'était pas pareil, tu sais. Puis je me disais, puis en plus, quand c'est parti en prolongation, là, je me disais, hey, mon Dieu, s'il faut que le Canada gagne, on va se texter, on va s'appeler, ça va être le fun, mais ce sera pas la même chose. Puis non, ça aurait été... j'aurais trouvé ça plate de voir le Canada gagner l'or tout seul alors que mes gars étaient pas là. Je te l'avais dit, là, c'est méga égoïste. Là, absolument. toi, c'est pourquoi?
Moi, c'est parce que, puis on s'en reparlera, mais au moment que la prolongation commence, puis même avant, je voyais bien qu'on ratait des chances en capoter. Puis Audrey nous le disait en majuscule aussi.
Oui.
Mais je me disais, t'sais, peu importe le résultat rendu là, la meilleure équipe, c'est le Canada. C'est ça que je voulais savoir.
Au nombre de fois où on a utilisé la phrase dans une vie, il a tout fait sauf marquer.
Ouais.
Hier, le Canada a tout fait sauf marquer pour de vrai.
Le nombre d'opportunités manquées.
C'est ça que je t'ai déjà dit souvent dans le top de sport. C'est de quoi que j'ai appris en tant que coach ou encore dans le monde, en ayant grandi dans le sport. C'est si tu penses que tu as donné tout ce que tu pouvais absolument, tu vas peut-être perdre, mais tu n'auras pas de regrets. Fait que moi, c'était un peu ça hier, équipe Canada. C'était de dire, la meilleure équipe n'a pas gagné, malheureusement, mais
ça arrive
regarde,
dans le sport.
Regarde comment on est meilleur. T'sais, on a vraiment bien joué. Il n'y a pas de critique à faire à peu près personne dans cette équipe-là. Fait que dans ce temps-là, moi, je suis serein avec des défaites qui virent mal.
Les joueurs étaient moins sereins que toi là, quand ils lui donnaient le petit tout puis le médaille d'argent, je te le confirme.
C'est qui? C'est Mathieu qui m'a envoyé une affaire d'un tweet. Bill Burr, l'humoriste, qui dit, j'ai vraiment le feeling que la médaille puis le toutou aurait pu être donné en même temps. D'après moi, ça se fait.
D'après moi, ils peuvent aussi toutes les mettre d'un sac, les toutous, là, puis ils ramasseront en sortant du vestiaire. Tiens, ça, c'est ta médaille de deuxième, puis ça, c'est un petit toutou parce que t'as de la gros peine.
C'est tellement bizarre.
Ça va faire drôle hein, de recommencer à regarder des matchs de la Ligue nationale de hockey cette semaine, puis je trouve que tout s'est fermé vite. Tu sais, là, c'était la finale de hockey dimanche matin. C'était une cérémonie de fermeture dans l'après-midi. Puis ciao, bye, une dizaine ou une douzaine d'heures plus tard. Tout était fini. Les Olympiques, on est rendu ailleurs. Le rideau est fermé. Puis on reprend nos vies. On reprend nos vies normales. T'sais. C'est allé vite. Hein. On aura l'occasion de s'en reparler d'ici 18h ce soir. Également aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe, évidemment, du côté du Mexique et de Puerto Vallarta. Je sais que qu'il y a beaucoup de gens qui ont échangé là-dessus. On va avoir notre nouveau collaborateur, Éric Sauvé, qui va venir nous parler de la situation, de la guerre des cartels, de la position inconfortable, peut-être, dans laquelle s'est mis le gouvernement mexicain aussi en tentant un grand coup. C'est-tu un grand coup qu'il voulait vraiment porter ou Donald Trump avait forcé un peu la donne? Parce qu'à partir du moment où tu fais ces choses-là, tu crées un déséquilibre, hein, dans une guerre de cartels qui peut devenir très violente, qui peut devenir dangereuse pour l'industrie touristique, pour la population sur place. Donc, évidemment, on va prendre le temps de faire le tour de tout ça.
Je pense aussi à toutes ces personnes-là qui ont redirigé leur voyage de Cuba vers le Mexique et qui, là, ont peur tout court d'aller au Mexique, tout endroit confondu à cause de ce qui se passe. Et moi, j'en connais une couple autour de moi que là, c'est comme, là, on va se faire rembourser tout court, puis on va attendre avant de partir. Hein?
C'est sûr. Je regarde les commentaires au 418-971-1021. J'aimais le feeling hier matin. Je me suis réveillé en me disant que le Canada au complet se préparait pour la game et que nous faisions qu'un, c'est-tu beau. La mauvaise équipe a gagné, mais on sait maintenant qui a la meilleure équipe. Les États-Unis n'ont même pas passé proche de rivaliser avec nous. Oui, mais non. Tu sais, Connor Hellebuyck a fait une performance individuelle extraordinaire.
Ouais, ouais.
C'est goaler,
mais
ça?
Le meilleur gardien de but, il était du bord des Américains.
Cette fois-là.
Et il n'a pas de choqué.
Non. Mais Billington a rien à se reprocher non plus. Fait que,
non, il a été, écoute, impeccable, je pense. Là. Puis j'ai une question à te poser, mais je veux pas que tu répondes tout de suite, Gab. Je veux que tu prennes le temps d'y réfléchir parce que j'ai mis le feu à la table du pit stop ce matin. Okay. Si, à la fin de sa carrière, Connor McDavid n'a pas remporté de Coupe Stanley et n'a pas remporté de médaille d'or, est-ce qu'il fait partie des plus grands de l'histoire? Réponds pas tout de suite.
Ça est mort, les joueurs.
Ouais, je le sais. Puis il y en a qui l'ont quasiment pris personnel, juste le fait que je posais la question. Là, mais
c'est bon, j'aime ça, ces affaires-là.
Moi, j'ai une description d'étage. J'ai peut-être plus d'étage. Là. Moi, il y a le Mont Rushmore qu'on va appeler. Là.
Oui.
Le Mont Rushmore, ça prend de l'or puis ça prend des Coupes Stanley.
Ouais.
Tu sais, Carey Price, c'est pas sur le Mont Rushmore des gardiens de but du Canadien pour cette raison-là.
Tu veux dire des gardiens de but du Canadien?
Ah, oui, absolument.
Tu en mets 4 en avant de lui?
J'en mets pas 4.
Ben, s'il y en a 4 sur le Mont Rushmore.
Ouais, mais là, je suis pas obligé d'en mettre 4. Là.
Ah, fait que tu changes les règles.
Ouais, non, je fais juste garder une coupe de roche libre. Là.
Ben,
l'histoire du Canadien n'est pas finie.
Ben,
je vais mettre Patrick Roy, évidemment.
Oui.
Je vais mettre Ken Dryden.
Oui, c'est correct.
Puis avant ça, je les ai pas vus jouer. Fait que j'étais un peu mal placé. Je pourrais mettre Georges Vézina pour le fun.
Jacques Plante pour le casque.
Jacques Plante pour le masque. Quasiment pas ça. Le choix.
Mais
non, Carey Price, pour moi, n'est pas coulé dans le rock.
Puis s'il avait appris le français.
Ça n'a rien à voir. Puis écoute, je trouve que c'est un intangible. Mais pour moi, c'est ce qui distingue les plus hottes des hottes et ceux qui sont hottes. Tu vois-tu la différence?
Mais là, je peux pas te répondre tout de suite.
Non. Je vais te laisser le temps de te craquer un peu.
Ouais.
Mais pour moi, pour que Connor McDavid soit considéré sur le même étage que les Wayne Gretzky, que les Sidney Crosby, que les Alexander Ovechkin, il va falloir qu'ils finissent par passer à travers une finale de la Coupe Stanley. Il va falloir qu'ils ramènent l'or au pays. Pour moi, personnellement, j'irai pas ces réseaux sociaux dire que c'est le plus gros choker de l'histoire de l'humanité. Là, c'est pas ça le point.
Non, exact.
Mais dans une carrière de joueur exceptionnel, donc joueur d'exception, pour moi, les plus grands doivent gagner le Super Bowl.
Parfait. Hey, j'ai hâte de te répondre parce que j'ai beaucoup de choses à te dire, mais tu veux
Je veux pas. Non, je veux pas qu'on se lance tout de suite parce qu'il faut faire le podcast des grands événements.
Ouais.
Mais je voulais quand même mettre la table. On se parlera de ça tantôt. C'est bon? Si y a quoi que ce soit sur les routes, le 418-971-1021 pour nous rejoindre. Et je veux mettre la table rapidement. Vous savez qu'on a eu beaucoup de plaisir dans les derniers mois à essayer quelque chose. C'était un genre de laboratoire test. On voulait voir si on aimait ça, si on trouvait ça intéressant. Parce que à chaque fois qu'on prend le temps de raconter des événements historiques, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Souvent, dans l'actualité, dans les bulletins de nouvelles, on passe très rapidement sur le volet historique. Si t'es au courant, t'es au courant. Puis si t'es pas au courant, ben t'es perdu dans la brume, tu sais. Et on a remarqué aussi que il y a de nouvelles générations qui sont pas au courant de ce qui s'est passé au Québec comme événement important. Je pars toujours du même exemple. Il y a des gens qui restent à Sainte-Foy que la tuerie de la mosquée sont pas au courant que c'est arrivé. Et pourtant, ça fait pas si longtemps.
C'est récent dans l'histoire.
C'est pas si loin derrière. Ça semble être devenu un défaut d'avoir de la surinformation sur le présent. On oublie peut-être un peu ce qui s'est passé avant et c'est un peu dans cette réflexion-là qu'on avait lancé une première série de podcasts des grands événements où on avait parlé, oui, de la tuerie de la mosquée, mais on était revenu aussi sur Opération Scorpion, la prostitution juvénile, le sommet des Amériques. Mmh. On était revenu aussi sur la tuerie à l'Assemblée nationale.
Denis Lortie.
Avec Denis Lortie, effectivement. Et là, aujourd'hui, on va lancer cette deuxième série d'épisodes sur les grands événements de l'histoire du Québec. On va se parler du départ des Nordiques dans les prochaines semaines. On va se parler du 400e de la ville de Québec. Il y a aussi quelques surprises peut-être qui s'en viennent. Mais aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup appris parce que j'étais encore jeune quand la guerre des motards a éclaté entre 1994 et 2002. Mais on va parler avec quelqu'un qui l'a vécu d'un palais de justice à l'autre parce qu'il a eu un rôle clé à jouer dans les procès des membres des Hells Angels et des Rock Machine. Au retour, on va s'installer en formule podcast avec Roger Ferland et on va parler de la guerre des motards. Soyez là.
Gravel. Hors de Québec.ca.
Gravel dans le retour. C'est le retour de Boulevard 102.1.
De retour à la programmation régulière, 15h24, lundi 23 février. On a présentement moins 4 degrés à Québec. Ça reste nuageux ce soir et cette nuit, avec un minimum de moins 13 degrés. Demain, alternant soleil-nuage venteux, maximum de moins 6. Encore une fois, les vents, refroidissement éolien, moins 19 en matinée, moins 13 en après-midi. C'est presque le copier-coller de la journée d'aujourd'hui. On prévoit de la neige intermittente pour la journée de mercredi avec un maximum de moins 7. Gab Marino et Audrey sont de retour parmi nous autour de la table. On vous rappelle que Véro est du côté du Saguenay. Ils sont partis à la pêche au talent,
oh,
à la pêche aux recrues. On tente désespérément de remplacer Max Larouche dans l'alignement. Donc,
depuis quelques années déjà.
Depuis quelques années déjà. Donc,
ils ont déjà ramassé Audrey de même. Mais non, mais t'arrives de là pour vrai.
Oh,
ben
oui,
c'est une journée de même.
Oh, oui, j'arrive. Ben oui, ben en fait, chaque année, il y a un repêchage de nouvelles recrues pour des stages.
Comme Mathias.
Exactement. Oui, Mathias, qui potentiellement peuvent se ramasser dans l'équipe. Fait qu'à date, ça marche.
Alors non, Véro n'est pas en deuil des Jeux olympiques ou de la défaite du Canada au hockey masculin, non. Elle est partie faire l'autre portion de sa job. Les boss sont partis, fait que nous autres, on danse avec Gab Marino, entre autres. 418-971-1021 avant de regarder les principales nouvelles du jour dans la circulation, Audrey.
Commence à y avoir quelques ralentissements sur la capitale, direction est à la hauteur de Robert Bourassa, ouest dans le coin de Laurentienne. Sinon, ça se passe sur Henri IV Sud à partir de chemin Sainte-Foy jusqu'à l'entrée du pont La Porte. Pour le reste, ça va super bien jusqu'à maintenant.
Juste en 20 secondes, un gros merci encore à Roger Ferland que je trouve fascinant, intéressant, qui amène plein de faits, qui est capable de simplifier les choses.
Il vulgarise bien.
Oui, oui, je le trouve excellent depuis que je l'entends en chronique à Boulevard, puis j'avais hâte de collaborer avec, puis on cherchait justement des projets qui pourraient faire en sorte que ça arrive. Je trouve qu'on a eu une conversation extraordinaire sur Opération Scorpion, la prostitution juvénile à Québec. Il était impliqué plus que directement. Il avait donné beaucoup d'émotions aussi pour les gens qui l'ont manqué. Là, faites le tour de nos podcasts sur la chaîne YouTube, puis partout où est-ce qu'on les met, là, sur l'application Boulevard aussi. Ça avait vraiment été un bel échange. Puis aujourd'hui, moi, j'ai appris plein d'affaires. Puis ça permet, tu sais, tu questionnes quelqu'un qui a été dedans. Tu questionnes quelqu'un qui a fait partie des rouages pour condamner des criminels. Fait que c'est plus juste des théories que tu lances sur un mur puis que tu sauras jamais si oui ou non, là, tu sais.
C'est une autre époque au niveau du corps policier aussi, dans la façon dont ils pouvaient faire les choses. Roger a vécu bien des affaires, mine de rien, dans sa carrière, puis j'ai trouvé ça le fun de vous entendre parce que j'ai appris énormément de choses aussi, là.
Mais quand tu dis, l'image est frappante, là. Il y a eu plus de morts, il y a eu plus d'attentats à la bombe et il y a eu plus de victimes innocentes pendant la guerre des motards au Québec que pendant les guerres de famille de mafieux à New York dans les années 70 et 80. C'est vraiment unique, dans le mauvais sens du terme, ce qu'on a vécu ici du côté de la province de Québec. Et on fait ça en formule podcast, puis ça va nous permettre de les rediffuser en temps et lieu. 15h28, ça va vite. Gab Marino, dans l'actualité, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se brasse?
Bien, peut-être que vu que tu viens de parler de ça, on peut parler de la situation au Mexique. Depuis quelques heures, pas trop de mise à jour, par contre, sur la situation, mais on renouvelle l'appel à la prudence là, à la suite de l'élimination d'un chef de cartel lors d'une opération militaire. Hier, la ministre des Affaires étrangères du Canada a déclaré que deux Canadiens souffrent de blessures non mortelles qui ont contacté les services consulaires canadiens au Mexique. Une troisième a demandé une aide financière, mais il y en a 26 305 actuellement recensés des Canadiens au Mexique. 8 000 se sont enregistrés au cours des dernières 24 heures parce qu'il y a ça qu'on demande, là, peut-être pour simplifier justement le rapatriement si jamais la situation devait se détériorer encore davantage. Quoique là, les signaux de la classe politique, ça semble être davantage du fait que plus ça va, moins ça sera violent. C'était un gros 24 heures, mais possiblement, et ça c'est la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, qui l'avance, elle dit les vols pourraient sûrement reprendre là, soit aujourd'hui ou demain. Aujourd'hui peut-être tard, mais demain, s'il n'y a pas encore là un autre événement qui fera en sorte que la situation deviendrait plus grave. 2500 soldats supplémentaires ont été déployés au Mexique dans l'ouest du pays, une mesure dissuasive parce que ce qui survient depuis le meurtre donc du chef du cartel, c'est que c'est un affrontement entre les forces de l'ordre mexicaines et bien sûr les employés de main, les hommes de main du cartel, donc mexicains, qui veulent rétorquer à la police par rapport à ce qui est survenu.
Et il y a deux cartels rivaux aussi qui risquent de se coltailler. En fait, t'as les Hells Angels de la place puis les Rock Machine de la place. On va être en mesure d'en parler avec un peu plus de détails tantôt avec notre ami Éric Sauvé. On va parler de ce qui se passe, entre autres, dans le secteur de Puerto Vallarta.
Tu vois, c'est Air Transat qui annonce qu'il va reprendre ses opérations à l'aéroport de Puerto Vallarta demain, du fait qu'aucun incident lié à des blocages routiers n'a été signalé depuis 23 février à minuit dans l'état de Jalisco. Alors, Air Transat, c'est son intention de le faire dès demain. Puis évidemment, dans le reste du pays, ça, il n'y avait pas une situation qui était... en tout cas, elle était en surveillance, mais pas plus inquiétante que ça. Parce que, tu sais, le Mexique, c'est grand. Puis c'est ça l'affaire, c'est qu'on connaît tous quelqu'un quasiment qui est au Mexique présentement.
Ouais.
Mais s'il est à Cancun, il n'y a pas de danger.
Pas de danger, mais ça inquiète quand même les gens.
Oui, mais tu sais, je veux dire, une fois que toi t'es inquiet ici pour la personne que tu connais, tu vois qu'elle est à Cancun, puis tu te dis, bon, ben ça brasse pas, tu sais, l'aéroport est ouvert, tout fonctionne normalement. C'est juste que si il y a une possibilité qui est plus grande que vendredi, que la situation se détériore. Mais là, depuis justement 24 heures, ça semble s'améliorer là-bas. On dit les bilans, c'est 60 morts, à peu près autant du côté de la garde nationale que des cartels. Allons-y avec les patinoires extérieures à Québec.
Ouais.
Donc, ça s'est réglé aujourd'hui, là, pour la prochaine année, en tout cas.
Les deux qui ferment, c'est lesquels?
C'est le parc de la Falaise et le parc des Écors. Donc, dans l'arrondissement, je ne sais pas si c'est Essor ou Écors, je ne sais pas.
Les deux sont à Sainte-Foy.
Les deux sont à Sainte-Foy-Sillery. D'ailleurs, moins de 1000 visites par année pour ceux-là qu'on a calculé. De quelle manière, je ne sais pas si Mathias aurait la réponse à cette question-là. C'est 649 visites au parc des Écors et 758 au parc de la Falaise. Donc, situé dans Cap-Rouge et dans Sillery. Ce qui explique les décisions pour ces patinoires-là, c'est surtout que il y a d'autres patinoires qui font exactement le même travail, à moins d'un kilomètre de distance à pied, et aussi l'achalandage qui est plus faible qu'ailleurs. Parce que les autres, la moyenne de la ville, c'est 2000-2500 visites en moyenne par année pour les quelques autres 100 patinoires de la ville de Québec. Donc, c'est les patinoires qui ont été déterminées. Au début, on parlait de 5 patinoires pour l'exercice budgétaire. Finalement, on a réduit ça à 2. On explique que la mobilisation citoyenne a penché dans la balance, mais aussi que pour aller trouver l'économie annuelle qu'on cherchait d'environ 150 000 $ on va aussi réduire les nombres d'heures de surveillance dans les autres patinoires du lundi au vendredi, donc une demi-heure plus tard le soir puis une demi-heure plus tard le matin.
Puis on dit que pour l'instant, il n'y a pas de fermeture supplémentaire de patinoires de prévu, mais... la situation peut changer là, d'un budget à l'autre. Là.
C'est Éric Courtemanche-Barry, qui est le conseiller municipal, qui est associé à ce dossier-là. Puis c'est lui qui faisait la conférence de presse ce matin. Il explique que la liste de 19 patinoires qui circulent, puis qui a été étudiée, puis que les gens sont craintifs, il dit on peut la mettre dans déchiqueteuse.
Okay.
Il dit c'est peut-être pas les dernières fermetures, mais il n'y aura jamais 19 fermetures, c'est sûr.
On aura le maire demain en studio pour sa visite mensuelle. Le timing est bon et on pourra réadresser avec lui, entre autres, la situation des patinoires. Mais beaucoup de gens qui se sont levés pour sauver leurs patinoires. Puis ça, j'ai trouvé ça beau. Faut pas perdre cette notion-là à Québec.
Le président du syndicat de la fonction publique du Québec compare Bernard Drainville à Donald Trump. C'est que...
OK, on peut dire bien des choses de Bernard Drainville,
mais
pas très
flatteur.
Non, là, il y a des limites, là, quand même.
Ça va loin et vite, hein, ces affaires-là.
Il répare l'intimidation au Québec, attention, là.
Parce que Bernard Drainville veut mettre fin à la permanence à vie des fonctionnaires après 2 ans d'emploi. Christian Daigle, donc, a surtout peur des dérives de cette décision-là, c'est-à-dire pouvoir influencer les employés de l'État à sa guise. Pour Bernard Drainville, c'est pour réduire la taille de l'État, pour éliminer la sécurité d'emploi à vie, disant qu'il faut être capable de dire à un fonctionnaire qu'on n'a plus besoin de lui, ou encore que le poste qu'il occupe est aboli parce qu'on n'en a plus besoin. Christian Daigle juge cette proposition tellement populiste et opportuniste. Il y voit une manœuvre pour tenter par tous les moyens de séduire les caquistes qui pourraient être séduits par ça parce que là, il est derrière Christine Fréchette. Et il rappelle quand même un élément relativement intéressant. La permanence des employés de l'État a été instaurée après l'ère Duplessis pour s'assurer que la neutralité du travail effectué dans les ministères soit à l'abri de l'influence politique. Alors, son exemple, c'est un employé du ministère des Transports fait des études et arrive à une conclusion que le troisième lien, c'est pas la meilleure idée. Ben là, si ça fait mal paraître le ministre, est-ce que le ministre, dans le scénario de Bernard Drainville, pourrait dire à l'employé, ben t'es dehors parce que tu penses pas comme moi que le troisième lien, c'est important. Fait que c'était son exemple.
Le problème, maintenant, c'est qu'on protège aussi l'incompétence et on protège aussi l'abolition de poste. Là. Quand ça a été négocié, il y a des gens qui savaient très, très bien ce qu'ils faisaient.
Oui. Et donc, il dit que les fonctionnaires et les professionnels du gouvernement doivent être au service de la population, pas du parti au pouvoir, parce que ça change souvent, mais les employés demeurent. Et il dit que c'est possible de congédier un travailleur pour incompétence ou faute grave à l'heure actuelle. L'État peut aussi abolir un poste et remplacer un fonctionnaire ailleurs dans l'appareil public. C'est ainsi donc qu'il défend sa position. Le ministère des Transports qui doute du plan de mobilité... avant la création du troisième lien, à Christine Fréchette, c'est le porte-parole Nicolas Vigneault qui a notamment parlé à TVA Nouvelles disant qu'il y a des enjeux de faisabilité technique et de sécurité par rapport à l'abaissement du tablier du pont de Québec. Alors, toutes les solutions faciles et simples, du côté du ministère des Transports, on dit « c'est pas facile puis c'est pas simple ». Toute option visant à baisser le tablier pour élargir le pont de Québec ou encore faire passer les camions lourds se ferait au détriment de la piste polyvalente. C'est que pendant le chantier de construction, il faudrait fermer le pont de Québec pendant de longues heures et de longs travaux. Ça occasionnerait des impacts considérables sur la circulation. Puis le pont Pierre-Laporte, une 7e voie dynamique, il pense que c'est très ardu. Notamment parce que ça, par la suite, une fois que c'est fait, la largeur des voies est réduite de sa largeur habituelle. C'est plus dangereux pour les collisions.
Oui. C'est toutes des choses qu'on a jasées ensemble dans le Pit Stop avec Marceau le lendemain des annonces parce qu'il y avait des bonnes sources puis il y avait des bonnes informations qui confirment exactement ce que le ministère des Transports vient de mettre en évidence. Fait qu'encore une fois, mais tu sais, c'est exceptionnel, ça arrive pas souvent. On nous a promis des affaires avant de vérifier si c'était faisable.
Ouais, c'est ça.
Ouais. C'est la première fois que ça arrive, l'histoire de la CAQ, ça.
T'as-tu encore le temps ou...
Un petit dernier,
Gab. OK. 31 millions de dollars sont réclamés à la ville de Lévis par des promoteurs insatisfaits du moratoire sur la construction. Alors, ça s'ajoute parce qu'il y avait déjà beaucoup de millions de dollars qui étaient encourus sur des chantiers, notamment Co-Cité à Lévis et Développement Lacifère. À cela s'ajoute le groupe CSB qui bâtit le Humano à Lévis et aussi le groupe Dallaire qui demande 5 millions pour compenser les retards donc dans les différents projets. C'est le 2/3 du territoire lévisien présentement qui est en moratoire en raison du manque de capacité de réseau de traitement des eaux usées. Ça a été décrété par l'administration de Gilles Lehoulier. C'est de vouloir dire on ne pourra pas fournir l'aqueduc à tous ces nouveaux buildings qui poussent, donc on arrête complètement de construire. Évidemment, ça cause des retards et de l'argent. Donc, c'est le résultat aujourd'hui, ça j'ajoute. Mais Stephen Blaney, qui lui espère recommencer la construction le plus rapidement possible, n'a pas fait de commentaires parce que c'est justement judiciarisé.
Merci Gab. Il est 15h37, 418-971-1021. S'il y a quoi que ce soit sur les routes, des sujets sujets sur lesquels vous voulez qu'on rebondisse, gênez-vous pas. Si vous avez des questions pour le maire demain également, on les prend évidemment. On essaye d'en poser le plus possible. 418-971-1021. Audrey?
Je vous parlais tantôt de Henri IV Sud là, jusqu'à l'entrée du pont Pierre-Laporte. Ça commence à ralentir à partir de chemin Sainte-Foy. Si vous êtes sur la capitale Est, hauteur Robert Bourassa, c'est bien installé. Ouest, hauteur Laurentienne. Et il y a dans le coin de Shannon qui s'ajoute devant la base militaire Rue de la Bravo dans les deux directions. Autre chose, 88-971-1021 texto.
Gravel 102-1.
15h43. Avant de rendre quelqu'un bien heureux, là, juste faire une petite mise au point. Si vous avez manqué une partie ou l'entièreté du podcast qu'on a enregistré tout à l'heure avec Roger Ferland sur la guerre des motards, c'est vraisemblablement à la mi-avril qu'on va vous présenter tout ça. Et à partir de ce moment-là, ben, la version visuelle et la version sonore seront disponibles sur toutes nos plateformes, le blvd.fm, l'application Boulevard, la chaîne YouTube, et on sera en mesure, à partir de ce moment-là, là, de vous donner les infos. Quel concours et quelle opportunité extraordinaire on a eu de vous donner 5000 $ de viande de première qualité de chez Alimentation Première.
C'est énorme.
Une carte cadeau de 5000 $ pour aller magasiner dans le monde merveilleux de notre amie Sandra Foudy et du gars avec des gros bras qui passe à travers des mythes de gauleurs en snapshotant. Alimentation Première. Cette semaine, ou plutôt la semaine dernière, on s'est laissé surprendre, on s'est donné faim et vous avez peut-être entendu nos breaking news Alimentation Première, le banc de crevettes qui a tenté de traverser l'Avin, le médaillon de porc à un congrès de bijoutiers ou encore une tempête de flocons de tilapia à Beauport. Quand on entendait ces manchettes-là, fallait vous inscrire évidemment au blvd.fm section concours. Vous avez été très nombreux à le faire. Merci à toute la belle gang d'Alimentation Première de s'être prêtée au jeu, d'avoir contribué à la réalisation de cette promo unique. Puis c'est tout un privilège et toute une chance en ces temps d'inflation, en ces temps de liste d'épicerie qui coûte trop cher, d'avoir accès à des milliers de dollars en viande toute catégorie de première qualité. On a un gagnant, on a une gagnante,
oui.
On a une gagnante.
Je trouve ça hot parce que pour un gros concours comme ça, vraiment, on n'a pas le choix d'utiliser le téléphone. Il faut appeler cette personne-là.
Faut que j'appelle. Tu sais que j'aime pas ça, appeler les gens au téléphone. Là, ça me rend mal à l'aise.
C'est 5000 $.
OK, là, comment je fais?
Le 9.
Le 9, OK. Oui.
Le 9, puis le numéro, donc 4 8 et les chiffres qui suivent.
Okay.
Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a appelé les différents finalistes. Et on leur a dit d'être près du téléphone. Fait qu'honnêtement, si tu tombes sur la boîte vocale de notre gagnante, t'es foutument malchanceux.
J'aimerais ça laisser un message.
Ça
me gêne de parler au monde.
Plus que lui parler en direct.
Ouais.
C'est tellement une belle nouvelle.
Oui, allô?
Bonjour, est-ce que je peux parler à Stéphanie, s'il vous plaît?
Oui, c'est moi.
Oui, bonjour, c'est Hugo Girard d'Alimentation Première. Comment ça va?
Oui, j'ai entendu cela.
Non, Stéphanie, c'est Gravel à Boulevard. Ça va bien?
Oui.
Écoute, t'es la grande gagnante. 5000 $ de carte cadeau Alimentation Première.
Wow! Hey, mon Dieu, j'ai le souffle coupé.
Ben là, ouais, là, on va remplir un ou deux congélateurs. Là. C'est quoi le plan de match avec ça, là?
Ben là, je sais pas du tout, parce que j'y ai pas pensé du tout. Et là, quand ils m'ont appelé pour me dire que je faisais partie des finalistes, je me suis dit, mais il va falloir que je m'achète un congélateur, t'es sûr?
Ben, vous avez un accent extraordinaire, vous êtes une fille de Laval?
Oui!
Ça, pour vrai, c'est un accent d'où, ça?
De la France.
De la France, mais à quel secteur?
Lyon.
Lyon, OK, ça fait combien de temps que vous êtes de notre côté?
20 ans.
20 ans?
Ben, ça paraît, je trouve, parce que j'adore ça parce qu'on a un couple d'amis dans ma famille.
Moi, j'adore ça parce qu'ils la renverront pas en France. Moi, je suis content pour ça.
C'est une bonne nouvelle. On te garde avec nous, Stéphanie. Non, mais ce que je trouve intéressant, c'est que c'est comme un Français mais de France, mais qui est cassé avec un petit peu de Québécois.
Il y a un petit peu de nous autres là-dedans.
Je trouve ça le fun.
Ben, on a immigré au Saguenay au début. On est resté 10 ans au Saguenay.
Oh, ouais. Dans quel secteur de Saguenay?
Comment?
Ah, follow, Denis.
Ouais, on a perdu le fil, hein?
à Ferland-et-Boileau.
Oh, voilà, tabarnouche. Voilà. OK, la ville vous manquait un petit peu, j'imagine, après ça. Hein?
C'est ça. Après, là, on est parti, on est au Mont-Saint-Anne.
Ah, ben génial. Ouais. Content de vous avoir parmi nous. Puis félicitations, 5 000 $ de cartes cadeaux. Profitez-en bien.
Merci beaucoup.
Et puis bonne journée. Puis on va rentrer en contact avec vous autres, là, des gens plus loquaces que moi, là, moins mal à l'aise au téléphone, qui vont faire le travail de fond là, qu'on appelle.
Salut Stéphanie.
Merci beaucoup, merci.
Bye-bye. Alimentation première. Hey, un gros merci, hein, c'est le fun. Les belles chroniques qu'on a avec Sandra Foodie puis cette opportunité-là. Je trouve tellement que le timing est extraordinaire. Les gens ont de la misère à arriver. Puis qu'est-ce qu'ils font dans ce temps-là? Ben, ils coupent sur la viande de qualité souvent.
Ouais, même les différents aliments de qualité tout court. Fait que, tu sais, là, tu as de la viande qui peut être déjà cuite. L'alimentation première, c'est toutes sortes d'affaires. C'est des produits qui sont préarrangés, des produits qui sont purs, pas de marinade, avec marinade, poissons, fruits de mer, bœuf, poulet, tu as tout. Là.
Je comprends que les temps sont durs, là, mais allez vous gâter une fois de temps en temps chez Alimentation première. Vous ne le regretterez pas. Puis oui, il y a les viandes et ainsi de suite, mais tu as toutes les à côté aussi qui sont disponibles. Commencez donc votre magasinage tout de suite. Alimentation première. .ca.
Si tu veux, moi, je ne suis pas là, je ne suis pas ici souvent pour le dire, mais je suis un client d'Alimentation première. Mais ça fait quelques années qu'on fait ça. Là. Puis, un des avantages, parce que tu t'en rendrais compte, je m'en rendrais compte si j'arrêtais du jour au lendemain, tu sais, mais le fait d'avoir un tombeau de viande toujours tout prêt, puis bien aussi scellé, puis tout ça, là, c'est que à l'épicerie, ils ne te la vendent pas aussi bien scellée. Ça fait que moi, si je veux le manger dans un an ou dans 6 mois, cette pièce de viande-là, si je veux la manger, je peux, tu sais. Uh-huh. Je le dégèle, puis ça va fonctionner. Puis juste cette espèce d'avantage-là sur le temps, là, de gérer toi-même tes soupers. Puis
d'avoir de la viande canadienne, t'as l'impression que, je sais pas, t'encourages un peu plus de chez nous. Moi, j'aime vraiment le principe.
T'encourages la viande canadienne?
J'encourage la viande canadienne.
Oh, les bœufs!
Je connais une couple de gros jambons qui ont gagné l'argent, moi, en fin de semaine. C'est une farce! C'est une farce. Il est 4h-10 à Boulevard 102.1, c'est Gravel dans le retour. Gravel!